joie de vous retrouver pour ce nouveau podcast après cette pause estivale. Et aujourd'hui, je reçois Vincent Rostin, que j'ai rencontré il y a quelques mois. Il était dans l'équipe qui m'assistait sur une turbine à bonheur chez un client. Et Vincent m'a fait des retours qui ont été très constructifs pour moi, qui m'ont permis de m'améliorer dans mon travail et mes pratiques. Et puis je l'ai recroisé à Agile Vendée. Et alors là, j'ai été bluffée par son audace et ce qu'il osait essayer. Donc c'est une joie de le retrouver aujourd'hui pour cette interview. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. Retrouvons tout de suite Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour Johanna.
Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, quand tu m'as posé la question, m'a fait sursauter. Mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'est vrai. Avez-vous déjà rencontré le responsable des pratiques managériales dans votre entreprise? Et je me dis, mais c'est tellement indispensable que oui, ça devrait exister. Et pourtant, moi, personnellement, je n'en connais pas. Mais avant qu'on aborde le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais?
Alors, on va essayer. D'où je viens? Je suis un pur produit des Hautes-Alpes. Les Alpes vraies, 300 jours de soleil par an. Je profite pour la petite page publicitaire. J'ai fait traditionnellement la traditionnelle école de commerce à La Rochelle. J'ai fini mes études au Mexique et j'ai commencé à travailler à Brest essentiellement avant de venir sur Nantes. Donc autant dire que voilà, j'ai bougé un petit peu en peu de temps, puisque maintenant ça fait plus de 20 ans que je suis sur Nantes et tout le reste ça s'est fait en très 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 peu de temps finalement. Après avoir fait pas mal de marketing et de commerce dans différents domaines qui sont la publicité, les télécoms et l'informatique, je me suis dit que j'allais transposer notamment la démarche relation client à la sphère managériale et RH, puisqu'on savait plus de choses sur nos clients que sur nos collaborateurs. Je me suis dit que ça pouvait être assez rigolo de prendre les mêmes méthodes et de les importer dans la sphère RH. Donc aujourd'hui, je travaille sur ce que les Anglais appellent le Talent Lifecycle Management, ce qu'on pourrait traduire par parcours candidat collaborateur. En gros, qu'est-ce qui va se passer pour lui tout au long de la vie dans une entreprise.
C'est en développant ça que tu es venu à remarquer qu'en effet, il n'y avait pas de responsable des pratiques managériales en entreprise. Comment t'en es venu à cette question que je trouve très drôle
La question, elle apparaît obligatoirement, puisque quand je travaille sur le cycle de vie des collaborateurs dans une entreprise, l'idée, c'est de voir comment on va les attirer, comment on va les recruter, comment on va les intégrer, comment on va les développer personnellement et comment on va développer la performance d'équipe dans l'entreprise, et puis comment on va leur offrir une sortie vers le haut, ce que j'ai appelé un peu l'upcycling, c'est-à-dire comment tu les transformes quand ils sortent en quelque chose de supérieur de ce qu'ils étaient auparavant. Et en fait, à chaque fois que tu œuvres là-dessus, tu œuvres sur les pratiques managériales. Mais un jour, on va te dire, tiens, là, c'est l'autre, il faudrait qu'on voit avec le DG. L'autre jour, vous voyez avec la RH. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la partie comme interne. Là, ça va être... Et en fait, tu es baladé tout le temps, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas de référent sur est-ce que cette pratique managériale, elle est normale chez nous? Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'elle est conforme à ce qu'on veut véhiculer comme valeur, etc.? Parce que les valeurs d'entreprise, on t'en placarde partout, sur tous les murs de l'entreprise. Par contre, pour moi, elles n'existent que quand elles sont ancrées dans les comportements. Et on se rend compte que il y en a plus d'affichés que ce qu'il y en a de réellement ancré dans les comportements des managers.
Je trouve étonnant que ce thème, et notamment ce titre de responsable des pratiques managériales, émerge d'une recherche sur ce qui touche on pourrait penser aux ressources humaines. Est-ce que tu peux un peu plus détailler comment ça se fait que le management est si important dans ce qui pourrait être une discipline des ressources humaines?
Ah justement, alors ressources humaines, déjà le terme il est affolant, on a l'impression qu'on est dans l'industrie minière et qu'on va devoir exploiter un filon, mais souvent effectivement c'est un positionnement qui est un peu particulier, c'est les ressources humaines malheureusement, souvent les services de ressources humaines sont plutôt des exécutants à qui on demande de faire des choses que des leaders qui vont déployer des actions pour que le levier humain soit un levier business dans les entreprises. Et justement, ce qui fait que la courroie de transmission entre les volontés d'un dirigeant et finalement ce qui se passe dans l'entreprise, la plupart du temps, ça passe par les managers. Et j'ai trouvé qu'il manquait effectivement ce lien, ou en tout cas ce référent. Et on pourrait l'attribuer à la RH, mais de fait, peut-être avec les logiques de développement RH et de formation, on en a un bout, mais on n'en a qu'un bout, quoi. Si on forme les managers à certaines pratiques, on ne mesure pas, on ne contrôle pas vraiment la mise en pratique derrière, quoi.
Donc, quelles sont les lacunes aujourd'hui, c'est-à-dire, en fin de compte, dans le cycle de gestion des talents, ou on va dire, je prends le mot anglais, hein, mais des recrues, je ne sais pas comment tu dirais, quelles sont les lacunes aujourd'hui et comment on y remédie?
Alors, faire une liste des lacunes,
tu me fais peur.
Je vais t'exploser les 20 minutes. Mais il y en a énormément. Enfin, rien que dans le vocabulaire, tu entends des gens qui disent « Tiens, on va faire une annonce pour vendre un poste à des candidats. » Si on en est là, c'est grave. C'est un peu comme si tu te disais que tu allais trouver ton partenaire dans la vie en lui vendant ce que tu es. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On se rend compte que autant on est capable de dépenser énormément pour attirer et recruter des talents, autant finalement la partie intégration, c'est pour schématiser, on te fait une fois qu'on t'a filé ton livret qui te dit comment tu dois faire tes papiers pour la mutuelle et où sont les pizzerias les plus proches, on a l'impression qu'on a tout fait pour t'intégrer, quoi. Sur la partie développement, bah, finalement, on se rend compte que y a une espèce de distorsion du contrat de départ où on est là pour développer l'entreprise quand on est salarié, mais l'entreprise est là aussi pour nous développer à un moment donné, et on se rend compte que finalement 90% des formations que tu reçois, elles sont pour avoir un payback immédiat sur l'entreprise, pas sur toi en tant que personne. Donc c'est une accumulation de petits trucs comme ça qui font qu'au bout d'un moment, je pense qu'on n'est pas dans le... On n'est plus dans une relation gagnant-gagnant, on a oublié que cette logique un petit peu long-termiste et globale, voire systémique, elle est importante pour que ça fonctionne, et que ça fonctionne surtout longtemps, quoi.
Et du coup, ça veut dire que tout le cycle doit être dans les mains d'une personne qui doit avoir une vision globale de la recrue, j'ai toujours pas le mot qui me vient, mais du salarié. Est-ce que, et si c'est le cas, et tu me diras si c'est le cas, est-ce que ça doit être...
Je pense pas qu'il faut qu'il y ait une vision centralisée. Moi, le Comintern ou le Soviet suprême, j'y crois pas trop non plus, hein, mais par contre, on peut que la vision soit partagée et qu'on soit aligné sur ce qu'on... Au-delà des fameuses valeurs qu'on affichait tout à l'heure sur les murs, qu'on se dise qu'il y a un référentiel de pratique managériale et qu'il est communément partagé parce que à la fois on forme mais on mesure comment les personnes managent, ben je pense que c'est quelque chose d'important.
Du coup, ça voudrait dire créer un poste quand même, ce fameux manager des réseaux.
C'est pas forcément un poste.
Alors, j'aimerais que tu me montres à quoi ça ressemble. Si je suis, puisque beaucoup d'entreprises sont dans ce cas-là, quels sont les premiers pas et comment je mets en place cette vision plus globale de l'individu?
Alors, déjà, par rapport à la logique de poste, c'est ce que je disais, c'est pas un statut à la limite. J'aimerais qu'on soit en mesure de me répondre que ce rôle est distribué entre plusieurs personnes, mais que ces personnes se parlent et savent et sont alignées en tout cas sur ce qu'elles pensent être la bonne attitude et les bonnes méthodes managériales dans l'entreprise. Et effectivement, qu'il y ait quelqu'un des RH, ça me paraît logique. Qu'il y ait quelqu'un de la direction générale, ça me paraît logique. Qu'il y ait des encadrants d'encadrants, ça me paraît salutaire aussi.
Quelle forme ça prend? C'est-à-dire que moi, imaginons, j'ai une PME et je prends conscience de ce que tu es en train de dire. comment je le mets en place dans mon entreprise.
Comment je le mets en place ? Première chose, c'est savoir déjà où j'en suis. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelles sont les vraies pratiques managériales en œuvre dans mon entreprise ?
Ok, donc comment... une partie audit, on peut même impliquer la qualité, quoi.
Ouais, si on veut. La qualité, si on veut. Mais en tout cas, comment est-ce que les gens sont managés chez moi aujourd'hui ? Plein de gens ne savent pas te dire ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on a un management plutôt... directif, plutôt participatif, est-ce que on responsabilise les gens ou au contraire on les micromanage, j'en sais rien. Donc la première chose c'est auditer. La deuxième chose c'est de se dire ben, par rapport à ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a des choses qui sont potentiellement des freins ou des, en tout cas qui viennent heurter ce qu'on croit être ou ce qu'on affiche être, c'est-à-dire est-ce que par rapport aux valeurs qu'on a effectivement, sur lesquelles on travaille souvent, valeurs, vision en entreprise, ben, est-ce que c'est compatible cette manière de manager avec ça ? Et la plupart du temps, la réponse, c'est non, dans ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que je vois beaucoup d'entreprises qui ont une... comment dire ? C'est pas une dichotomie, c'est vraiment même une dissonance entre les valeurs affichées et les valeurs constatées dans les comportements, notamment managériaux. Et là, c'est fondamental de pouvoir s'aligner quand même sur ce type de choses-là. On est surpris de voir le nombre d'entreprises qui se disent audacieuses, curieuses, centrées sur l'humain, machin, et qui managent à la schlag comme on manageait il y a 30 ans et... sans laisser le moindre degré d'autonomie à quiconque et qui te disent après ah oui, mais on n'arrive pas à avoir des idées, à générer des idées, à innover, etc. Donc c'est ça qui est assez important. Et puis ensuite, bah, effectivement, une fois que tu as fait le constat, que tu as vu si tu étais aligné ou pas, bah, c'est comment s'aligner, trouver les méthodes qui correspondent au but que tu poursuis. Et surtout ensuite, comment faire que ça s'auto... Ça s'auto-ajuste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que tu vas changer de stratégie, etc., parce que peut-être que tu auras un petit peu un passage plus difficile, ne serait-ce qu'au niveau trésorerie dans ton entreprise, tu peux être tenté de renier certaines choses parce que, et dans ces cas-là, bah, il faut peut-être se séparer un peu la forme du fond et se dire il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas, il y a des choses sur lesquelles on peut s'assouplir, mais pas d'autres, quoi. Donc c'est du pilotage aussi fin que quand on est sur une logique de produits, de tactiques pour adresser un marché, etc. C'est la même chose.
Ça demande une remise en question profonde. Ça demande aussi une recherche parce qu'une fois que tu as identifié la façon, quelles sont les pratiques managériales au sein de l'entreprise, celles qui sont en disruption ou qui sont en opposition avec nos valeurs, trouver les nouvelles méthodes, c'est pas évident. Comment on fait ?
Après, ça, c'est un peu la même chose que pour tous les compartiments du jeu en entreprise. C'est aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit on reste, on fait comme on a toujours fait et il faudrait être fou pour entendre autre chose comme résultat. Soit on essaye d'améliorer sa compétitivité ou sa performance en étant en veille permanente sur ce qui peut se faire. Ce qui peut se faire à l'extérieur ou ce qu'on pourrait faire de mieux en essayant des choses par soi-même. Et j'allais dire, c'est pas...
Mais qui propose dans ces cas-là ? Qui vient avec ces nouvelles méthodes ? C'est tout le monde dans l'entreprise ? Est-ce que c'est la direction ?
Justement, aujourd'hui, on n'est plus dans un système où tout part de la tête. Hein. On a les moyens de communiquer à tous les niveaux. Et c'est souvent parce qu'on a un problème à un moment donné qu'on est capable d'innover, de trouver une solution qui soit vraiment intéressante. Donc justement, je pense que c'est parce qu'on va pouvoir sensibiliser au fait qu'il y a des gens qui sont responsables de ces pratiques managériales, que quand il y a un problème qu'un salarié ressent ou qu'un manager éprouve dans sa position de manager, il va pouvoir le soumettre à la cantonade et puis essayer de trouver autour de ça une solution. C'est un peu ce qu'on voit avec les... je ne vais pas en parler d'entreprises libérées parce que j'aime pas trop le gloobie-boulga qu'on fait autour de ça, mais il y a un truc, je ne sais plus en anglais comment ils disent, c'est... non-hierarchical organization. Hein. En gros, il y a un truc plus large que simplement l'entreprise libérée qui ne parle que par Saint Gates. Où en fait, tu vas travailler comment. Enfin, il y a plusieurs choses, hein, holacratie, blinkocratie, sociocratie, etc. Où tu vas partir de l'attention et adapter à la fois ton modèle de gouvernance et ton modèle de production. Mais c'est pas. C'est auto-adaptatif à chaque fois. C'est pas un truc qui est figé dans le marbre. Je veux surtout pas, quand tu parlais de qualité tout à l'heure, moi, ça me fait presque attraper des boutons, parce que la plupart du temps, quand on parle de qualité, on parle de normes. Quand on parle de normes, on parle de
Ah
figer
oui,
les
mais parce
trucs.
que j'ai pas la même vision de la qualité, parce que moi j'étais responsable de qualité dans mon premier job, et pour moi le qualiticien, même si j'ai pas continué dans cette voie, c'est l'observateur de ce qui se fait dans l'entreprise. Donc il est
Ouais.
capable d'auditer, de regarder. Normalement, ce qu'il écrit, c'est comment les gens travaillent, quels sont leurs process individuels. Et en ça, la qualité est intéressante en tant qu'observateur et il
C'est-à-dire
peut
le chemin,
retranscrire.
ouais, souvent le chemin est vertueux, notamment la première fois que tu le fais. Là où ça me gêne plus dans la partie normative de la
Oui,
qualité
je comprends
derrière,
tout à
c'est
fait.
quand tu commences à le figer et que tu réfléchis plus parce que tu le sais dans ton process, quoi.
Oui, moi je voyais la partie
Et je suis d'accord avec toi,
observation de la
le début,
qualité.
c'est exactement la même chose. C'est je vais enfin te dire et mesurer comment tu travailles, et de là, on va pouvoir en faire quelque chose de différent, mais c'est d'abord le constat, ouais.
Mais c'est vrai que
Là-dessus, on est
c'était moi,
d'accord.
c'était pas mes qualifications de départ. C'est par hasard que je me suis retrouvée responsable qualité. Et en mettre en place l'ISO, j'avais trouvé, alors que j'aime pas trop les règles, mettre en place l'ISO, j'avais trouvé ça passionnant parce que c'était l'observation de ce qui se passe dans la société. Et donc, ça, tout d'un coup, ça nous donne une image de ce qu'on fait. Et en
Je
ça,
suis
je trouve
d'accord pour
qu'elle est très utile, la
je suis
qualité.
100% d'accord sur le premier step, il est fondamental. En tout cas, c'est le bon alibi pour pouvoir se dire comment est-ce qu'on bosse vraiment. Il y en a plein d'autres aujourd'hui.
Tu parles d'auto-ajustement, d'auto-régulation. Aujourd'hui, est-ce que tu as des exemples concrets de à quoi ça ressemble? Comment on crée un système qui s'auto-ajuste?
Aujourd'hui, c'est compliqué à mettre en œuvre, notamment dans les grandes sociétés super hiérarchiques, etc., où il faut demander la permission à tout le monde, au banc et à l'arrière-banc, pour faire quelque chose. Mais cela dit, c'est un peu la vocation de tous les outils de type réseaux sociaux d'entreprise, qui normalement te permettent effectivement de travailler de manière non hiérarchique et transversale. Donc la plupart du temps, ça peut passer par là. Par contre, là, il y a un boulot d'accompagnement de comment on utilise ces outils, alors que tout le monde a l'habitude de faire des cascades de mails pour se protéger, c'est-à-dire, je veux bien changer, mais c'est pas moi qui prends la décision. Il y a effectivement c'est pas que les gens sont pas prêts, c'est qu'il va falloir abandonner pas mal d'habitudes avant d'en acquérir des nouvelles, quoi.
Je reviens un peu en arrière sur un thème que tu as utilisé, sur un terme que tu as utilisé qui est l'upcycling.
Ouais.
Et qui m'a étonnée. Alors, déjà, peut-être est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est? Et j'ai été étonnée dans le sens où j'avais l'impression que c'était donner les armes pour la suite. Et je me suis dit, mais quel intérêt pour l'entreprise qui est en train de voir quelqu'un partir,
Ouais.
de le pimper?
Alors c'est tout l'enjeu de ce que je te disais, mon cycle de vie du collaborateur. Déjà, l'upcycling, c'est un terme que j'ai détourné. Normalement, c'est plutôt les gens qui font du tri de déchets, qui prennent par exemple des bouteilles d'eau, qui les hachent et qui en font des trucs en laine polaire, quoi, par exemple. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, mais dans un cycle, effectivement, il y a toujours une fin, la sortie. Et en RH, on dit pas qu'on produit des déchets. Ça se fait pas de dire, quand on travaille avec de l'humain, on produit des déchets. Sauf que le gars que tu fais plus évoluer au bout d'un moment dans une organisation, bah, au bout d'un moment, il devient moins bon dans sa fonction, puis moins employable, puis il se fait du mal à lui tout seul, hein, et puis au bout d'un moment, il est même nocif pour ton organisation, parce que quand il progresse plus, qu'il végète et tout ça dans son coin, potentiellement, il peut commencer aussi à te, pour parler vulgairement, à te chier dans les bottes, et à te pourrir l'ambiance de l'équipe, etc. Donc finalement, Alors, c'est dur à dire, hein, mais on produit des déchets, y compris quand on manage les ressources humaines. Et de ne pas le dire, c'est criminel. Une fois qu'on l'a dit, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas en produire. Et je suis assez persuadé, et j'ai pu l'observer quand même depuis 8 ans, que finalement, quand tu n'as pas de perspective de progression, quelle qu'elle soit, dans ton boulot, dans tes pratiques, dans ton organisation, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et il y a plein de boîtes qu'on observe, alors surtout quand tu vas regarder dans les grosses boîtes type banque, assurance, comme ça, où il y a zéro turnover. Ces boîtes-là, on ne sort pas, ni du fait du patron, ni du fait du salarié. Et au bout d'un moment, si jamais pour une raison ou une autre, plan social, etc., tu dois sortir, tu es complètement en panique parce que ce n'était pas prévu dans ton plan de vol. Et l'idée de se dire pourquoi j'investirais dans les sorties, c'est que finalement, justement, avec les réseaux sociaux publics cette fois-ci, on voit de plus en plus comment sont faites les carrières des gens. Et tu vois aussi ce que les gens sont devenus quand ils sont sortis d'une boîte. Et plus tu vas pouvoir voir que les gens, en sortant d'une boîte, ont eu un pas important vers le haut, on va dire, hein, un haut supposé, en tout cas, il y a eu une progression, on voit qu'ils ont fait autre chose, etc., plus je pense que c'est comme ça que tu verras quelles sont les mesures des... Alors, qui seront à la fois les mesures d'attractivité d'une boîte, parce qu'on va se dire, tiens, dans cette boîte, je progresse, et on peut faire quelque chose en sortant. Et puis aussi, donc du coup, c'est un indice d'attractivité, puis aussi un indice de... Il fait bon vivre dans cette entreprise, parce qu'elle n'est pas là à me retenir, quelque part. Les packs de fidélisation étant souvent des packs pour moi de rétention, et j'ai même appelé ça des packs aliénants. Quand tu as la voiture, la mutuelle, la colo des enfants, le machin, le truc, au bout d'un moment, tu te dis, ah, mais j'aurais jamais tout ça à l'extérieur. Donc même si ça me plaît plus, ce métier, que j'ai plus envie de faire ça, ah, je peux pas prendre celui-là. Il est aussi bien payé, mais j'ai pas tous les avantages. Et du coup, tu fais pas le petit pas qui te ferait du bien et tu restes. Et c'est compliqué.
Nous sommes arrivés au bout de notre temps imparti, Vincent.
Oh merde. Ah, c'est rapide, hein.
Ah ouais, mais 20 minutes, tu sais, ça passe, quand on
Oui, mais on
discute,
savait
ça
qu'on
passe
pouvait
vite, hein.
discuter des heures.
Ouais. Du coup, je passe au questionnaire qui est commun à toutes les interviews. Avec la première question, accroche-toi bien. Parce que je sais que tu ne les as pas préparées. Donc, quelle est la meilleure erreur que tu aies faite dans ta carrière et quelles leçons en as-tu tirées?
J'ai jamais l'impression de m'être vraiment planté, moi. Ou alors, c'est parce que j'oublie très vite quand je me plante et que je rebondis vite. Si, c'est vrai que quand j'ai créé ma boîte, là, le Cairn for IT, la première année, c'était en 2008. Et c'était plutôt sur du recrutement. Et donc, la première année, j'ai dû générer péniblement 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui, tu en conviendras, fait pas beaucoup.
C'est compliqué.
C'est compliqué, mais en fait, je suis parti avec ce truc-là. J'avais un super contrat qui devait, la première année, aller à lui tout seul. Ça me faisait, je crois, 60 000 euros. Donc, le contrat qui me permettait de bien vivre ma première année. Et du coup, je me suis précipité mais vraiment précipité pour créer les statuts, monter la boîte, le machin, le truc, pour m'entendre dire, parce que ce recrutement, c'était un recrutement, hein, de quelqu'un de vraiment, bien payé qui générait beaucoup d'argent pour moi derrière. Et je me suis précipité comme un bœuf à faire, je crée ma boîte, je fais tout pour pouvoir facturer, avant même de m'assurer que c'était nécessaire, tu vois, pour pouvoir facturer mon client qui m'avait. Et en fait, ce truc-là, ça me fait dire maintenant que, tout d'abord, mais l'administratif après, tu vois. Et c'est vraiment une question de priorité, c'est se dire il y a des choses qui sont vitales, il y a des choses qui peuvent faire mourir ton entreprise, mais c'est jamais la paperasse, quoi. Donc finalement, peut-être que c'est ça. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple que j'aurais pu te donner, mais en tout cas c'est celui qui vient maintenant, quoi. Donc
Très
si vous
bien.
montez votre boîte, vous précipitez pas à faire les papiers. Dès que vous avez fait tous les papiers, ça vous coûte des sous en plus.
Ouais. Bah, moi personnellement, j'ai choisi le portage salarial pour justement pas avoir toute cette partie paperasse.
J'aurais peut-être
Et
pu.
donc, je t'aurais conseillé à l'époque de te mettre en portage jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise de créer ta boîte. Mais moi, je crois que je la créerai jamais parce que j'aime le portage, ça m'évite d'avoir à
Eh ben,
gérer mes
tu vois,
RSI.
je pense que par contre, si j'avais su ce que c'était, j'aurais peut-être fait comme toi et je l'aurais jamais fait. Donc bon,
Ouais.
ça change rien en fait.
Maintenant, deuxième question. Quelle technique ou outil t'a le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Ou punaise.
Ouais,
Alors là,
c'est dur.
encore, on a 20 minutes, c'est ça?
Non.
Non, peut-être que le. Alors. En outil, vraisemblablement depuis que je l'utilise, c'est-à-dire, je sais pas, presque, ça doit faire presque 10-15 ans, j'en sais rien, je sais pas quand est-ce que c'est sorti, j'ai pas pu dater ça. J'en ai deux principaux, c'était la mind map, la carte heuristique. Comme tu l'as vu, je suis un peu tendance à partir dans tous les sens, parce que j'aime ça, parce que j'aime bien les autoroutes, mais je préfère prendre les sentiers qui mènent à d'autres sentiers et qui permettent finalement de découvrir des choses un peu par hasard. J'adore ça. Et la mind map, pour ça, c'est génial, parce que tu notes tout et tu organises après. Et c'est un gain assez phénoménal. Et justement, ça permet souvent d'envisager les choses de manière un peu globale, là où les gens les voient. Que par le petit, enfin les gens, c'est con de dire ça, mais enfin là où la multitude des gens que je rencontre a tendance à voir plutôt de manière très précise, et finalement ça te permet souvent de faire un pas de côté ou un pas vers le haut qui donne une approche systémique des choses qui est intéressante. Et puis l'autre outil qui a été déterminant pour moi, c'est les réseaux sociaux. Parce que depuis que Viadeo s'appelait Viaduc et que LinkedIn est arrivé en France, c'est quelque chose que je pratique au quotidien tout le temps. Et ça m'a permis d'apprendre par moi-même un nombre de trucs incalculables et de rencontrer des gens phénoménaux partout. Donc je trouve ça assez terrible.
Du coup, on peut te contacter, te suivre sur LinkedIn et Twitter aussi. Je crois que tu es assez présent sur
Je
Twitter.
crois que tu peux. J'en ai identifié 800 de réseaux sociaux et je crois que j'ai des comptes à peu près actifs
C'est vrai.
sur 80 ou 100. Donc,
Lesquels tu utilises le plus?
tu l'as dit, hein, Twitter, Facebook, LinkedIn, ça c'est, on va dire,
Le trio de tête.
le truc de base. Après, j'adore Instagram pour publier des photos. Celui qui m'inspire le plus, c'est vraisemblablement Pinterest. Que je trouve juste génial. Ça, quand tu sais pas quoi faire, t'attends le bus, tu regardes ça te donne des idées. C'est le bonheur. Après, j'aime bien jouer avec les nouveaux. Tu vois, là, il y a un Français qui a fait un truc qui s'appelle Tribe, qui est vachement sympa. C'est un peu comme le talkie-walkie vidéo de demain. Tu as tous tes contacts avec leur trombine, tu appuies dessus et tu leur laisses un message vidéo. C'est encore plus
C'est
simple que
Snapchat, quoi.
Snapchat.
Ah oui. Il y a Beam aussi sur le même principe.
Ouais. Mais c'est Tribe qui va gagner.
C'est vrai, parce qu'il est
Non, je sais pas.
français, c'est ça? T'es un peu
Je
franchouillard,
dis ça comme ça, mais il est sympa.
hein? Ok, troisième question. Il y en a, juste pour que tu saches, il y en a cinq. Hein.
Ok.
Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
La qualité. Donc il n'y en a qu'une.
Tu peux tricher, hein.
Ouais, je pense que si là encore par contraste, j'allais dire que c'est l'écoute. Il faudrait que les managers arrivent à penser qu'ils ont deux oreilles et une seule bouche, qu'ils parlent moins et qu'ils écoutent plus. Ce serait pas mal. Et puis s'il y en avait une deuxième, je pense c'est qu'ils arrivent à sauter de l'idée toute idée de statut, c'est-à-dire que faut pas confondre le management et la chefferie. Voilà, c'est pas du commandement.
D'accord. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué?
Alors là, c'est pareil, il y en a une palanquée, mais peut-être que par les temps qu'on vit actuellement, ce sera mon conseil de lecture du jour, je vous souhaite.
Mais c'est exactement ça en plus,
Je
hein.
vous engage vraiment à lire un livre qui devrait être distribué partout dans toutes les écoles, etc., qui s'appelle Le roi, le sage et le bouffon. Je crois que c'est Rafik Chalafi, alors son nom, je vais l'estropier, parce que il y a un S, un H, enfin bon,
Non,
c'est.
mais je le mettrai en lien
Et
dans l'article.
Le roi, le sage et le bouffon, c'est une fable un peu à l'orientale sur un roi qui a un peuple pour qui tout va bien, mais il sent bien qu'il lui manque un petit quelque chose. Et il s'aperçoit que c'est une espèce de mysticité qui manque à son peuple, donc il va organiser le grand tournoi des religions auquel il convie toutes les religions, y compris l'athéisme, pour décider quelle sera la bonne religion pour son peuple. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que notamment à un moment donné clé, mais je veux pas spoiler, hein, on fait une parabole entre le fait qu'on peut voir le monde comme un drapier avec des ciseaux et voir ce qui oppose, ou alors comme un couturier avec une aiguille et ce qui rapproche. Et j'aime
Écoute,
beaucoup.
il sera en lien dans la description hein, de ce podcast sur iTunes, sur SoundCloud et sur le blog. J'en avais jamais entendu parler, je ne crois pas en tout cas. Et maintenant, on va finir avec une citation qui pourrait un peu définir ton action ou ce en quoi tu crois.
J'allais dire, y en a une qui me plaît bien parce qu'à chaque fois que j'ai un coup de blues ou que je me sens pas en haut de taille à affronter les trucs, elle me rebooste pas mal. C'est When there is a will, there is a way. En gros, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et j'aime bien parce que c'est un peu le truc des. C'est un peu comme les hackers, là, tu te dis, il y a tout, forcément un moyen d'y arriver. Et je vais ouvrir le système et trouver comment ça fonctionne. Donc celle-là, elle revient souvent dans ma tête. Je t'ai pas dit l'autre parce que j'ai vu que quelqu'un d'autre l'avait utilisé et que je l'ai détourné en fait.
Ah bah vas-y, dis-nous.
La citation d'Oscar Wilde où on dit il faut toujours viser la lune
Ouais,
pour
on
avoir une
atterrit dans
chance
les
d'atterrir dans
étoiles.
les étoiles. Moi, je trouve qu'il était bourré ce jour-là, Oscar. C'est pas possible, c'est complètement con. Tu peux pas atteindre les étoiles si t'as pas assez de carburant, que t'as visé la Lune. Donc, pour moi, c'est l'inverse. Faut viser les étoiles pour avoir une chance éventuellement d'atterrir sur la Lune si jamais tu te plantes.
Ok, donc tu fais la leçon à Oscar Wilde.
Ouais, pas peur. Même
Tu
pas peur.
t'as peur de rien, c'est bien.
Ouais. Mais j'aurais bien aimé voir une mousse avec lui quand même.
Ah ouais, bah écoute, peut-être que dans la prévie,
Dans l'après-vie.
on se
Ouais,
retrouve
on se boit
tous
une
au
mousse avec
bar.
Oscar, pas de souci.
Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter le plus facile, même si on l'a déjà évoqué un peu plus tôt?
Alors, le plus facile, c'est sur mon téléphone.
Mais tu veux que je mette ton téléphone dans
Tu peux
l'article,
mettre
c'est
mon
ça?
téléphone, il n'y a
C'est
pas de
vrai?
souci. Je crois qu'il est sur mon site, donc
Tu oses tout,
pas de
bravo.
problème. 06 63 14 95 84. Je me donne le droit de pas répondre de suite, d'entendre le message et de rappeler.
Ok.
Et puis sinon, bah, c'est sympa, j'aime bien Twitter, donc trouvez-moi sur le Cairn, LECAIRN.
D'ailleurs, c'est quoi le cairn?
Ah, le Cairn, tu sais pas ce que c'est, toi? Un
Si, je
Cairn?
crois, mais je suis pas sûre.
Les cairns, c'est ces tas de cailloux
Ah oui, c'est un
autoconstruits.
cairn. Ah oui, d'accord.
Voilà. Et en fait, il y a un truc fabuleux sur les cairns, c'est que. Alors, le cairn, c'est censé. Dans n'importe quelle culture, ça montre un endroit important, quel qu'il soit. C'est souvent ce que tu mets au bord des chemins quand il y a du brouillard pour pas te perdre. Donc, c'est un peu le même rôle qu'un phare, mais en montagne notamment. Et les Écossais ont une super légende sur les cairns. Ils disent qu'à chaque fois qu'il y a un sommet, il faut faire un cairn en haut. Et qu'à chaque fois que tu gravis cette montagne, tu dois mettre un petit caillou en
Ah,
haut.
et ça rajoute au
Et que c'est
cairn.
comme ça que les montagnes grandissent.
Ah. C'est comme le cairn de Grissini, là, pas loin.
Mais tu peux
C'est.
faire beaucoup plus petit. Hein.
Ouais. Mais c'est bien ça, on parle bien de ça. Ouais,
C'est
j'étais.
bien ça. Et l'autre truc qui me plaît, moi, c'est la co-construction, l'élévation, l'architecture, etc.
Ah, bien vu.
C'est pour ça l'histoire de mon nom.
Eh ben, on va conclure là-dessus. Et bah, je te remercie
Ben, merci à
d'avoir
toi, Tina,
participé. C'était.
de m'avoir supporté. Je t'ai explosé le cerveau,
Non,
t'es
j'ai bien
tympan et
rigolé,
tout.
c'était vraiment très sympa.
Bon.
Donc merci beaucoup et au revoir.
Salut, Joanna.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Vous pouvez trouver ces interviews sur le blog de Moodstep, moodstep.com, où il y a des lecteurs SoundCloud qui peuvent être exportés sur des pages, sur les réseaux sociaux, sur des blogs. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner via iTunes. Et si vous avez le temps, et je vous encourage fortement à le faire parce que bah, ça m'aide beaucoup, vous pouvez noter ce podcast et laisser un commentaire. Je vous dis à mercredi prochain, passez une très belle semaine.